Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus nombreux à cette conférence. Je pense que le moment est venu pour que je puisse dire non seulement à la presse, mais à travers la presse, que ces déplacements concernent la situation de crise sociopolitique traverse aujourd'hui la presse centrafricaine joue un rôle très important. La population formée. Ce que je voulais dire ici, c'est que le plaidoyer que j'ai fait le 8 avril 2013 sur la situation en République centrafricaine, à la situation permanente de la francophonie à Paris, par la suite, plusieurs missions en Afrique et en Europe, pour trouver des moyens à la grave crise que traverse notre pays. C'est ainsi que je me suis rendu successivement au Tchad, Belgique et au Congo pour solliciter l'aide de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je précise ici que la crise que nous traversons aujourd'hui est d'une ampleur telle que les solutions ne peuvent pas venir de l'intérieur, mais de l'extérieur. En ce qui concerne le Tchad, à l'invitation du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, a participé au 4e sommet extraordinaire chef d'État et de gouvernement tenu à N'Djamena le 18 avril 2013 à l'effet d'examiner la situation qui prévaut dans notre pays. La suite de cette importante rencontre régionale, plusieurs décisions ont été prises à travers des recommandations destinées à engager la République centrafricaine sur la voie de sortie de crise. Plusieurs questions ont retenu l'attention des chefs d'État et de gouvernement, notamment la situation politique actuelle, c'est-à-dire la composition et le fonctionnement du Conseil national de transition, l'élargissement des pouvoirs du Premier ministre, les dispositions relatives à l'élaboration des projets de constitution et les textes structurants de la transition et de la sortie de crise. À cet égard, le principe du consensus a été retenu comme règle d'adoption des recommandations conformément aux décisions du 3e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenu le 3 avril 2013 à N'Djamena. La formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale de transition faisait partie également et avait été inscrit à l'ordre du jour l'appellation officielle de l'autorité investie par le CNT pour diriger l'État, l'action sécuritaire et humanitaire, l'action économique et financière. Ce qui concerne la situation politique et institutionnelle, compte tenu de la nécessité de faire du Conseil national de transition le creuset d'une gestion inclusive de la transition et réunir les conditions d'une plus grande participation à l'élaboration de la Constitution et des textes législatifs indispensables au processus législatif et à la restauration de l'ordre constitutionnel dans notre pays, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont recommandé que le nombre des sièges au sein du Conseil national de transition soit porté à un total de 135. Les 30 nouveaux sièges seront attribués aux régions, formations politiques, y compris l'ancienne majorité présidentielle, groupes politico-militaires qui n'ont pas encore renoncé à la lutte armée, ainsi qu'à la société civile, aux femmes et à la jeunesse. La répartition ce quota sera géré sous ma responsabilité pour éviter de tomber encore dans le tripatouillage qu'a connu la liste constitutive du Conseil national de transition dans sa composition. Le Conseil national de transition dispose de la plénitude du pouvoir législatif. Il est chargé de préparer le projet de constitution qui sera soumis au rage populaire. La Cour constitutionnelle de transition sera chargée et à la constitutionnalité des lois, connaître du contentieux électoral, proclamer les résultats définitifs de l'élection électorale et de recevoir serment du président de la République démocratiquement élu. La durée de la transition est fixée à 18 mois. Chef de l'État, le Premier ministre et les membres du gouvernement d'Union nationale de transition, ainsi que le président et les membres du bureau du Conseil national de transition, ne peuvent se présenter aux prochaines élections présidentielles. Le Premier ministre dispose de pouvoirs élargis. Il est le chef du gouvernement. Il ne peut être révoqué par le chef de l'État de transition pendant la durée de la transition. Il sera procédé à la formation d'un nouveau gouvernement d'Union nationale de transition à travers de larges consultations sur la base de l'esprit de l'accord politique Libreville du 11 janvier 2013 sur la base, pour rétablir un juste équilibre entre les diverses entités. Le gouvernement doit en conséquence être inclusif. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, depuis un mois, la ville de Bangui est le théâtre de pillages, de vols, de viols et d'autres exactions perpétrées par des éléments incontrôlés de Séléka et des bandits de tout genre. Pour mettre un terme définitif à cette situation inadmissible, Bangui fera l'objet d'un traitement spécial par le renforcement de la Micopax. L'effectif de la FOMAC sera porté à 2000 hommes d'ici la fin du mois de mai 2013. Les nouveaux contingents viendront renforcer la FOMAC afin de lui permettre de remplir efficacement sa mission de sécurisation des biens, des installations de l'État et des entreprises, et également solliciter la participation et l'implication effective forces françaises présentes sur le territoire national à la pacification du pays. Sur ce plan précis, Bangui sera déclarée ville sans armes sous la supervision de la Micopax et des détachements français de Boali avec les implications suivantes. Qu'un élément des forces armées centrafricaines Séléka et ex-FACA en divagation ne sera autorisé à porter l'arme dans la ville de Bangui. Tous les FACA, les ministres et les populations civiles détenteurs d'armes doivent dans un premier temps remettre volontairement les armes en leur possession. Cas de refus ou de résistance, il sera procédé au désarmement forcé. Cette opération nous permettra de désarmer la population et de démilitariser la ville de Bangui ainsi que celle des autres régions. Tous les éléments Séléka et les ex-FACA non autorisés à porter des armes seront casernés hors de Bangui en vue des opérations de formatage, c'est-à-dire identification, enregistrement, constitution en unité militaire et organisation de vie en caserne en attendant leur insertion dans le service militaire dans le cadre de la restructuration de l'armée. Logistique leur sera fournie ainsi que l'organisation des activités militaires. Il sera mis en place des commissions mixtes militaires et civiles conjointes pour le rapatriement des militaires et civils centrafricains réfugiés dans les pays voisins. Éléments armés étrangers qui se trouvent sur le territoire centrafricain seront désarmés et rapatriés de gré ou de force dans leurs pays respectifs. Et fait interdiction à toutes les initiatives d'hostilité armée de groupes politico-militaires qui n'ont pas encore renoncé à la lutte armée. Autre forme d'hostilité politique qui proviendrait des partis politiques et organisations de la société civile susceptibles de nuire à la réconciliation nationale pendant la période de transition. Médias nationaux, tant publics que privés, doivent s'abstenir de servir de support, de ration ou de relais à ce genre d'activité. Les actions que je viens d'énumérer s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme. Cela demande un soutien effectif de la communauté internationale et des partenaires stratégiques potentiels, car la mobilisation des ressources matérielles et financières conséquentes. S'agissant de mon déplacement en Belgique, pour avoir tous ces moyens, je suis rendu à Bruxelles, sollicité de l'Union européenne un appui budgétaire d'urgence en vue de sortir très rapidement notre pays de la situation dramatique traverse. Notre administration est totalement paralysée suite à la destruction de ses installations, pillage et saccage des bureaux, documents et du matériel bureautique. Une insécurité généralisée caractérisée par la destruction essentielle des infrastructures socio-économiques avec un impact aux effets incalculables sur les entreprises, une situation humanitaire catastrophique. Devant l'ampleur de cette calamité, solliciter auprès de l'Union européenne une aide exceptionnelle d'urgence et de couvrir nos besoins financiers sur la période d'avril à juin 2013 et les conditions d'une stabilisation sur le plan économique et financier. La situation que traverse notre pays sur le plan économique et financier est particulièrement difficile. La destruction de l'essentiel du tissu économique limite considérablement les capacités de l'État à faire face aux engagements urgents. Pourquoi le financement sollicité de nos partenaires servira à assurer le règlement des dépenses de sécurité, notamment le cantonnement des éléments de Séléka, leur casernement, le redéploiement des FACA, etc. Régler les salaires, les bourses, les pensions et les frais de vacation afin de limiter les risques éventuels d'explosion sociale. Assurer le fonctionnement et l'équipement des organes de transition, à savoir le Conseil national de transition et la Cour constitutionnelle de transition. L'apurement d'une partie de la dette commerciale des entreprises nationales et étrangères victimes des actes de vandalisme, puis de relancer le plus rapidement possible le secteur productif, puis de préserver les emplois existants et soutenir la consommation. Réhabiliter les bâtiments détruits et équiper l'administration, particulièrement les hôpitaux, les écoles objets de pillage systématique, fournir des médicaments et du matériel médical afin de créer les conditions minimales d'une reprise du fonctionnement de l'État. Ainsi, il s'agira de répondre aux besoins les plus urgents des populations sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, il sera mis en œuvre des mécanismes avec l'appui des partenaires qui permettent d'identifier avec les populations concernées les infrastructures et les actions prioritaires tant en termes d'accès aux services sociaux essentiels qu'en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de reprise des activités socio-économiques. Sur tous ces points, l'Union européenne a exprimé sa disponibilité à appuyer financièrement la République centrafricaine. L'attribution de l'Union européenne est liée à la normalisation de la situation sécuritaire, respect des engagements politiques réalisables à partir d'une feuille de route crédible pour faciliter une intervention rapide. Elle pense que le rétablissement de la sécurité est une condition indispensable pour favoriser efficacement son intervention. Elle considère que le rétablissement de la sécurité est essentiel pour garantir une plus grande mobilisation de l'aide en faveur de la République centrafricaine. La détermination du commissaire chargé de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises à ne pas abandonner la République centrafricaine, j'assure des lendemains meilleurs. De sa part, la Belgique nous a assuré de son engagement à se joindre à l'Union européenne pour appuyer dans ses efforts de redressement. Question sur le fonctionnement du plan national de transition, respect de l'accord politique de Libreville, les recommandations du sommet du 3 avril 2013 à N'Djamena, l'insécurité persistante à la ville de Bangui et à l'intérieur du pays, fait l'objet d'échanges fructueux. La mission de Bruxelles a permis non seulement la reconnaissance par l'Union européenne de la légitimité du gouvernement d'Union nationale de transition, mais surtout la disponibilité de nos partenaires à appuyer les efforts du gouvernement pour rétablir la sécurité. Agissant les jours en Afrique du Sud, l'invitation du président Jacob Zuma a effectué une visite de travail au cours de laquelle je lui ai remis un message de paix et de condoléances du chef de l'État de transition gouvernement d'Union nationale de transition, peuple centrafricain, gouvernement et au peuple d'Afrique du Sud pour les incidents militaires entre les groupes survenus de Séléka et celle d'Afrique du Sud dans notre pays. J'ai saisi cette occasion pour clarifier avec le président Zuma l'état de relations entre nos deux pays en vue d'ouvrir une nouvelle page dans nos relations et particulièrement dans notre coopération bilatérale. Les relations devront désormais s'inscrire dans un cadre conventionnel d'État à État, mutuellement avantageuse à nos deux peuples. À l'issue de cette visite, le président Zuma a annoncé la nomination d'ambassadeur d'Afrique du Sud en Rennes avec présence à Bangui. Cette décision constitue indéniablement un succès diplomatique. Une conférence de presse conjointe a été organisée à l'initiative du président Jacob Zuma d'apaiser les esprits de nos deux peuples et les malentendus. Nous annonçons qu'une mission Sud-Africa à Bangui au courant de cette semaine pour la base d'une nouvelle coopération, les conditions de la représentation diplomatique. Enfin, en ce qui concerne le déplacement au Congo, participer à la réunion inaugurale du groupe international de contact sur la situation en RCA, tenue les 2 et 3 mai 2013 à Brazzaville. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la République centrafricaine conformément au communiqué final du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC organisé à N'Djamena le 10 avril 2013. L'exposé que j'ai fait à cette occasion portait sur la situation sécuritaire, politique, humanitaire et économique. Ainsi, j'ai informé nos partenaires sur les principales mesures prises par le gouvernement pour restaurer au plus vite et la paix. À ce point, nous avons obtenu que l'effectif de la FOMA passe de 750 à 2000 hommes. L'incidence financière est de 47 milliards de francs CFA sur une période entre les volets formation et équipe. Concerne le renforcement des effectifs de la FOMAP, l'Union européenne maintient son engagement de financement. La République démocratique du Congo s'est engagée à apporter sa contribution. Les membres de la CEAC ont promis de mettre en place rapidement le complément d'effectifs durant ce mois de mai. Les effectifs du Tchad, soit un bataillon, et du Congo sont d'ores et déjà disponibles. Donc, ces effectifs à Bangui. Les ministres des Affaires étrangères, membres du groupe international de contact, exhortent les autres forces en présence en RCA à contribuer également à la sécurisation base et nationale dans la zone infestée par la LRA, qui sont des élèves de l'Union africaine. Conformément à la feuille de route décidée au sommet de N'Djamena, j'ai échangé avec les partenaires sur le chronogramme des textes, chartes de la transition élaborée, les organes de la transition à créer et sur le déroulement du processus. J'ai mis l'accent sur les conséquences dramatiques de cette crise dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. À l'appui et pour rassurer nos partenaires que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter la circulation. Le thème des Nations Unies a promis d'accroître sa contribution pour assister les personnes éprouvées, chercher en même temps un financement supplémentaire pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations. La situation économique est si désastreuse qu'elle a entraîné le ralentissement économique et la paralysie de l'administration fiscalo-douanière. Cela se traduit par une faible mobilisation publique. L'évaluation des objectifs budgétaires est plus qu'impérative. L'élaboration d'une loi de finances rectificative permettra de recentrer priorité sur les mesures d'urgence. La réunion de Brazzaville a décidé la création d'un fonds fidaire ou fonds spécial de solidarité pour non seulement répondre aux mesures d'urgence mais également financer l'Union européenne, la Banque africaine de développement et la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs se sont engagés à étudier d'autres mécanismes économiques et financiers. Là, mesdames et messieurs, la télévision centrafricaine avait posé 2 questions. Sur le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, la formation d'un gouvernement d'une part et d'autre part la question de salaire de ceux qui ont pris des crédits dans les banques
et qui fait l'objet de ces banques-là. Le débit, si je puis m'exprimer. S'agissant du premier volet de la question, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, tel que décidé au dernier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de N'Djamena du 8 avril 2013, cette question sera examinée lors de l'élaboration et de l'adoption de la charte de la transition. La charte de la transition va définir les pouvoirs du chef de l'État, Premier ministre et Conseil national de transition. Je pense qu'il y aura une grande concertation des forces politiques, avoir un texte consensuel, celle-là, qui va nous donner des indications claires et précises sur les pouvoirs du Premier ministre. S'agissant de la formation du gouvernement, il est évident qu'il faut aussi une concertation avec tout le monde. Ça doit être un gouvernement inclusif. Je vous dis que pour avoir participé au huis clos des différents sommets des chefs d'État et de gouvernement, et de gouvernement PACA, hein, qu'il y a des situations menées des décisions, à savoir par exemple le caractère un peu déséquilibré du gouvernement et les chefs d'État de la CEAC. Et le gouvernement doit être un véritable gouvernement d'union nationale. Des politiques doivent être représentées. Pas force politique et sociale régionale du pays. Concerne les salaires, le gouvernement avait dit qu'il y a des fonctionnaires qui ont pris des crédits dans des banques. Et ces banques ont débité deux fois ces fonctionnaires. Je pense qu'il faut que nous soyons réalistes. On ne va pas demander au gouvernement de faire des choses qui ne relèvent pas du gouvernement. Le gouvernement n'est pas là parce que quand vous êtes allé demander du crédit, vous n'avez pas demandé au gouvernement d'être votre conscient. À faire des contrats entre vous et votre banque. Vous êtes allé à la banque là. Est-ce que vous êtes allé avec l'État pour aller prendre avec le gouvernement pour prendre le crédit? Vous avez même superbement ignoré même le gouvernement pour aller prendre le crédit, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez des difficultés, vous dites qu'il faut que le gouvernement intervienne parce qu'on vous a débité deux fois. Non. Allez voir votre banquier. Et c'est ça le rôle du banquier et de son client. Il vous appartient d'aller voir votre banquier et de faire comprendre à votre banquier que compte tenu de la situation que nous avons vécue, vraiment, si on vous débite deux fois, vous ne serez pas en mesure de joindre les deux bouts. Et votre banquier vous comprendra. Mais n'allez pas demander à l'État d'écrire aux banques pour dire, écoutez, ne débitez plus les gens qui ont pris des crédits chez vous. Ça ne marchera pas. Le globe visionnaire qui a posé plusieurs questions. Qu'est-ce que vous attendez de la population pour la pacification? Pas bien compris la suite. Pas bien compris cette question. Non, d'accord, ok, oui, maintenant je me souviens. Je voulais répondre à cette question en mettant en exergue le fait que plan interne, nous n'avons pas des ressources suffisantes pour passer à la crise que nous traversons aujourd'hui. La crise revêt quatre dimensions. Une crise sécuritaire, une crise humanitaire, une crise... Je crois que pour l'aspect politique et institutionnel, cela nous pouvons le régler. Nous pouvons régler ça au niveau interne. Les aspects sécuritaires, humanitaires et économiques et financiers à notre portée. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'appui de la communauté. C'est ça que nous voulons faire passer comme message auprès de la population. Quelles mesures auront été prises par le gouvernement pour saisir l'Interpol afin de retrouver les biens volés? Des mesures ont été prises parce que il faut dire que des biens ont été retrouvés. C'est à Brazzaville, on a retrouvé des véhicules des organisations des Nations Unies. On a retrouvé plus de 15 ou 20 véhicules là-bas. Donc, Madame l'ambassadeur, la RCA à Brazzaville a trouvé ces véhicules-là. Donc, les autorités congolaises saisissent ces véhicules. Donc une mission puisque le ministre délégué à la Défense faisait partie de ma délégation. Il a rencontré aussi son homologue congolais. Donc une mission se rendra à Brazzaville pour récupérer non seulement ces véhicules, mais également les armes et munitions qui sortent de ce pays ami. Il en est de même pour le Cameroun, où il y a 200 éléments des PACA et autres épées, plusieurs véhicules et l'hélicoptère et par l'ancien président Bozizé. Le gouvernement camerounais a demandé Manzal, plutôt le gouvernement camerounais est disposé à mettre à la disposition de notre pays un Transal pour ramener ces véhicules, les armes et les munitions qui sont sur son territoire. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que compatriotes civils et militaires soient dans les pays voisins puissent rentrer dans nos... En ce qui concerne Zuma, je pense qu'il faut dire que l'Afrique du Sud, ayant pris conscience de que elle avait été induite en erreur, prendre à l'Afrique du Sud au président Zuma, ont désormais des relations courageuses d'État à État, parce que les relations antérieures, caractérisées par l'opacité, particularisme personnel, c'est-à-dire que c'était les intérêts personnels qui étaient prédominants. Donc c'est les intérêts de notre pays qui doivent voir que l'Afrique du Sud veut aussi tourner la page et se racheter. C'est pour ça qu'elle veut contribuer à l'effort de notre pays. Sous quelle forme? Pour l'instant, ce n'est pas encore déterminé. Parce que dans cette démarche, il n'y a pas que la CEAC. Le groupe international de contact de Brazzaville a permis à d'autres organisations internationales d'intervenir au niveau de l'Union africaine et également au niveau des Nations unies. Il y a un élargissement et faire le soutien, un élargissement au plan international pour le soutien. Et l'Afrique du Sud est disposée à apporter son aide. Ça peut être une aide en termes logistiques, être aussi une aide financière. Si c'est en termes d'appui en troupes, et Afrique du Sud, il y a aussi d'autres pays qui se sont manifestés. Cadre de forte une grande expertise pour la pacification démocrate. La question de savoir si mon absence était un de vous dire que j'étais rentré de voyage le dimanche soir. Il y a aussi des engagements lundi avec Mme Vogt de NUCA et une délégation de l'Union africaine qui était venu pour évaluer la situation militaire en RCA. Une mission mixte composée des gens, des experts militaires de l'Union africaine, des Nations unies, de la CEAC et de l'OIF. Ils étaient venus pour faire une évaluation militaire de la situation, permettre le renforcement de la FOMAC ici. Et comme ils devraient rentrer le lendemain, il fallait bien que... là pour les recevoir. Ce qui est important, ce n'est pas ma présence physique. Le ministre n'est pas là, il est représenté par le gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne les éléments qui doivent être membres supplémentaires du Conseil national de transition, ça a fait couler effectivement beaucoup d'encre. J'ai appris, mais je n'ai reçu aucun courrier de la presse. J'ai appris que la presse veut avoir 10 places parmi les 30 états, puisque je n'ai reçu aucune correspondance de la presse. Donc, pour moi, je ne suis pas officiellement saisi. La seule personnalité habilitée. Ne savez pas votre nom dedans, ne soyez pas surpris. Ça, c'est pas mon point. Je ne suis pas saisi. Donc, vous êtes déjà informé. Alors, donc, j'ai dit que il y a eu effectivement du tripatouillage, comme je l'avais dit dans ma déclaration liminaire pour la formation du Conseil national de transition. Des problèmes, parce que tout ce que nous faisons ici par la communauté internationale, pas bien. C'est pour ça que j'ai été acculé au sommet de N'Djamena du 18 avril. Bien ficelé. Dire que ce jour-là, j'ai réagi non pas en politique, mais peut-être même en avocat. Deux doigts de la non-réponse par le CNT. Maintenant, pour régler le problème, on nous a donné 30. On ne nous a pas donné, on nous a demandé d'ajouter 30 personnes. Et il faut que je vous dise clairement ma position. Il peut y avoir des contestations, il peut y avoir des points de vue différents. Que dit N'Djamena 4? N'Djamena 4 dit il faut 30 postes supplémentaires, 30 sièges supplémentaires. Que nous avons reçu des contestations. Mais avant, je précise qu'avant Djamena, il était question de mettre en place une commission de recours. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas été désignés par leurs entités et dont les noms se sont retrouvés sur l'arrêté. Ça avait posé problème. Donc avant Djamena, il était question de mettre en place une commission de recours. Cette commission de recours devrait examiner tous les dossiers. Ceux qui avaient été régulièrement élus, choisis par leurs entités, gardaient leur siège. Par contre, ceux qui ont été inscrits dans le cafouillage devaient être plus. Voilà. Mais quand nous sommes allés à Djamena, le sommet avait décidé de 30 sièges supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons trouver une solution politique à la crise au niveau du CNT. Le sommet de Djamena n'a pas dit que il faut enlever des gens parmi les 105 là et les remplacer avant d'ajouter les 30. Le sommet de Djamena a dit qu'il faut ajouter 30 sièges supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un souci de paix, nous allons garder les 105. Soit bien élus ou mal élus, on va les garder. Parce que si on rentre dans les considérations contentieuses, nous n'allons pas nous en sortir. L'esprit Mena 4 milite en faveur de cette interprétation. 105, il faut que ça soit clair, les 105 membres du CNT resteront dans le CNT. Maintenant, ce sont les 30 répartitions. Vous, les journalistes, vous voulez prendre 10 là. Il restera quoi pour les autres, hein? Donc, sur les 30, Djamena a procédé à identifier, à cibler des entités qui doivent bénéficier des sièges là, des partis politiques, les régions politiques, les partis politiques, politico-militaires qui n'ont pas renoncé à la lutte armée, société civile et les fonds. Voilà comment ça va se passer. En ce qui concerne les régions et la ville de Bangui, il y a des régions où les choix des représentants n'avaient pas posé problème. Eh bien, ces régions sont valablement déjà représentées au CNT. On ne touchera pas à ça. Pour les régions dont la contestation est vive, c'est-à-dire les gens estiment que ce n'est pas la personne là qui les représente, eh bien ces régions vont avoir droit à leurs vrais représentants. Parce que ces régions disent que si ce sont ces personnes-là que nous n'avons pas désignées, nous ne les considérons pas comme nos représentants au CNT. On leur dit, bon, maintenant, choisissez votre représentant. Et je crois qu'on en a de prendre moi-même le dossier en main. Il y a au moins 9, y compris Bangui. Les chefs partis des 8 arrondissements de Bangui ont estimé que la personne est au CNT là, ce n'est pas un des leurs. On réunit et on dit, c'est elle comme ça qui nous représente. Eh bien, il va rester 8, je crois, il va rester 22 même. Puis, en dehors des régions et des partis politiques. Avant Djamena, il y a un certain nombre de partis politiques qui étaient représentés. Regardez, actuellement, tous les partis politiques qui ont fait leur demande sont désormais représentés. Aucun parti politique ne peut se lever pour dire « je n'ai pas de représentant au sein ». Que ce soit dans l'opposition, comme dans l'ancienne majorité, tous les partis politiques. Donc, sur les 30 supplémentaires, les partis qui ont déjà eu des représentants n'en auront plus. Fait que donner siège à ceux qui n'en avaient pas avant Djamena. Porte que aujourd'hui, tous les partis politiques. Maintenant, il y a. Voilà, je reviens sur le. Pour les régions, il y a une préfecture dont on va réserver le siège, c'est la Basse-Kotto. Élu quelqu'un, la personne est à l'étranger, n'en pas prendre son siège, a donné mandat
quelqu'un de sa préfecture pour le mandat. Vous êtes désigné par une préfecture, si vous ne pouvez pas, vous avez des empêchements, vous dites, directeur, nous ne pouvons pas assumer la mission parce que c'est une mission qu'il ne peut pas assumer. Alors les gens doivent faire le choix de leur représentant au Conseil national de transition. Pas un mandat. Le mandat ne peut se donner qu'entre membres du Conseil national de transition déjà en fonction. C'est quand vous êtes en fonction que, en cas d'empêchement, vous donnez mandat à un de vos collègues conseillers nationaux, par exemple, de voter en votre place. Mais vous ne pouvez pas donner mandat à quelqu'un dans une préfecture pour le français. Dans un mouvement politico-militaire n'ayant pas encore renoncé à la lutte armée. À ma connaissance, il n'existe que le mouvement de Abdoulaye Niskin. On va le réserver un siège. D'autres sièges ont été donnés à ceux qui ont été frustrés lors de la dernière lors de la mise en place, c'est-à-dire il y avait des gens qui avaient été au cours d'une réunion présidée par Gilles Bergezenguer, quoi, ils ont été frustrés au niveau des femmes, des sportifs, culturels, ces catégories-là, puisqu'ils font partie de la société civile, femmes, oui, femmes, jeunesse, elles, etc. Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Maintenant, c'est un arrêté que je vais signer. Bien entendu, c'est un acte administratif. Ceux qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord, ils saisissent le tribunal là-bas. Il va avancer. Une procédure judiciaire a été lancée par le ministre de la Justice. Et le démocrate pose la question de savoir est-ce que cette procédure judiciaire est compatible avec la réconciliation nationale. Et il me semble que la question, elle, est d'autant plus importante qu'elle touche même de l'impunité. Que nous sommes prêts à accepter l'impunité dans notre pays. Les crimes doivent bénéficier de l'impunité. Je crois qu'actuellement, non seulement en tant que militant des droits de l'homme, a fermé les yeux sur tout ce qui arrive, sur tous les crimes de sol et autres. L'éducation nationale ne peut se faire. Insulte. Quoi? Actuellement, il n'y a pas de chasse aux sorcières. L'œuvre est qu'aujourd'hui, il y a un régime qui sont revenus de leur exil et qui occupent des postes importants. Quand j'étais à Brazzaville, puisque j'étais allé à deux reprises, c'était le voyage du mardi dernier avec mardi de la semaine dernière avec le général Douluaya qui était en exil à Brazzaville, il est revenu pour occuper son poste de chef d'état-major de l'armée. Il en était de même aussi d'un officier de la gendarmerie qui était rentré. Ceux qui n'ont rien à se reprocher peuvent rentrer dans leur pays, mais ceux qui ont commis des crimes, que ce soit des crimes de sang, des crimes économiques, ils auront des comptes à rendre. Il m'a été posé aussi des questions pour les victimes. Mais je crois que mon plaidoyer à l'Union européenne, c'est surtout pour les victimes. L'action humanitaire, je parle de l'action humanitaire, c'est surtout pour les victimes. C'est pour qu'on amène dans notre pays les médicaments, les vivres, on règle les problèmes de santé, d'éducation également. Il y a actuellement 47 000 réfugiés centrafricains au Congo démocratique, 7 000 réfugiés au Congo au Tchad, 4 000 au Congo Brazzaville et 4 000 aussi au Cameroun. Donc les efforts que je suis en train de déployer, c'est pour que la communauté internationale puisse venir en aide à nos compatriotes qui sont en exil et pour les faire rapatrier. Et en même temps, j'ai beaucoup insisté sur l'aide humanitaire à l'intérieur, puisqu'il y a 1 500 000 déplacés internes. Donc, il faut beaucoup de moyens pour venir en aide à cette population déplacée, composée essentiellement de femmes, d'enfants. Et donc, les victimes ne sont pas oubliées.
En ce qui concerne les problèmes de montant, je vais vous dire une chose, je ne suis pas le genre de personne qui, une fois revenu d'une mission, vont vous dire que je suis revenu avec 300 milliards. Qu'on ne verra jamais 300 milliards. Je suis pragmatique. Je pose les vrais problèmes du pays où les résultats seront là, c'est en ce moment que je les annonce. Comme par exemple, quand je vous annonce quelque chose, c'est que la chose se réalise. Quand je vous dis que l'ambassade de l'Afrique du Sud va venir, elle va venir. Le jour où l'argent ou bien les fonds vont être déployés, vont être mis à notre disposition. Je vais vous dire, voilà le montant et c'est le produit des efforts que nous avons fournis. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a demandé, c'est ce que nous allons recevoir. Pour les pouvoirs élargis du Premier ministre, j'ai déjà répondu à cette préoccupation. S'agissant des exactions contre l'Église catholique, nous tous nous regrettons ce qui est arrivé et nous condamnons. Contrairement à ce que je lis à gauche et à droite que les autorités n'ont pas condamné, je me porte en faux contre cela. Lors d'une déclaration que j'ai faite ici, j'ai fermement condamné en mon nom personnel et au nom du gouvernement les exactions commises contre nos populations en général. Et donc acte de dangereux dans la mesure où les gens se demandent est-ce qu'il n'y a pas un conflit à caractère confessionnel et il nous faut éviter cela pour notre pays. Vous dites qu'il y a un ordre de mission qui a été délivré par le gouvernement à des braconniers. C'est le Premier ministre qui délivre les ordres de mission. À ma connaissance, je n'ai donné d'ordre de mission à personne.